Bonsoir Martin Fayoulou, leader de la plateforme politique de l'opposition, la Mouka, appelle à l'organisation sans délai d'un dialogue national inclusif en RDC. Dans un message rendu public mardi 18 novembre, il appelle à la mobilisation générale. Martin Fayoulou exprime ses inquiétudes quant au virage pris par la RDC, qu'il estime orienté vers une balkanisation. À travers son message, il dénonce l'accord d'intégration économique signé récemment par la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Il le considère comme une menace à l'intégrité territoriale de la RDC. Il invite la jeunesse congolaise à se mobiliser pour défendre le pays. Quelle lecture faites-vous de ce nouvel appel au dialogue fait par Martin Fayoulou? C'est le thème de notre débat d'aujourd'hui. Et avec moi dans ce studio pour en parler, Prince Epengue, président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamouka. Prince Epengue, bonsoir.
Bonsoir madame.
Dieudonné Nkichi, président du parti politique Congo Positif, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, il est initiateur du Front Anti-Dialogue National. Dieudonné Nkichi, bonsoir. Dieudonné Nkichi, bonsoir. Bonsoir Dieudonné Nkichi.
Bonjour, je n'entends rien.
On a un petit souci avec son casque, également la réalisation, la technique va arranger ce petit souci. Également avec nous dans ce studio de Radio Okapi, Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir madame.
À Matadi, au Congo central, vous nous suivez sur la sonde 2.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, l'opposant Martin Fayoulou Madidi, leader de la plateforme politique Lamouka, appelle à l'organisation sans délai d'un dialogue inclusif national en RDC. Il a dit dans un message rendu public hier mardi, et ce dernier appelle à la mobilisation générale. À travers son message, il dénonce l'accord d'intégration économique signé récemment entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis, qu'il considère comme une menace à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. On écoute Martin Fayoulou, voilà, dans cet extrait sélectionné par Ronelli Timbonera.
Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation. L'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé.
C'était là Martin Fayoulou, président de l'ECID, leader de la plateforme politique de l'opposition, Lamouka. Prince Epengue, vous êtes président du parti politique ADD Congo qui fait partie de la coalition Lamouka. Vous en êtes le porte-parole. Martin Fayoulou appelle à l'organisation sans délai d'un dialogue national inclusif en RDC. C'est pas la première fois qu'il appelle à ce dialogue. Il réitère son appel et demande au président Félix Tshisekedi d'organiser un dialogue inclusif en RDC sans délai. Quel est l'objectif précis de ce dialogue national inclusif?
Le dialogue national inclusif pour lequel la coalition Lamouka, mon parti ADD Congo et le président Élie Martin Fayoulou nous nous battons maintenant depuis 2 ans à comme objectif principal de mettre fin à la guerre d'agression qui déchire notre pays. Mais aussi, il y a des objectifs connexes, entre autres, celui de rassembler les Congolais, mettre ensemble nos forces, fédérer nos énergies, mettre en commun nos idées afin de réfléchir sur l'avenir de notre pays. La guerre d'abord, comment on récupère les territoires, les entités que le régime Tshisekedi a abandonné entre les mains du Rwanda, comme Bunagana, nous sommes à la 3e année, et bientôt, le Nord Kivu, le Sud Kivu, Mino va et ailleurs, bientôt une année, que suite à l'incapacité du régime Tshisekedi, ces entités sont à la fois gérées par les Rwandais, comme le Nord Kivu, et l'Ouganda du côté de l'Ituri. Mais nous allons chuter sur la nécessité de réfléchir autour des réformes électorales à mener. Vous êtes sans ignorer, madame, que nous sommes à 1401 jours de la fin du mandat de M. Félix Tshisekedi. L'élection présidentielle étant la seule qui a un calendrier dans la Constitution. Parce que 90 jours avant l'expiration du mandat de celui qui est locataire aujourd'hui, les Congolais doivent élire le nouveau président de la République. Et donc, le dialogue va aussi servir à ça, à réaliser ou amorcer les réformes électorales qui vont devoir nous conduire à des élections démocratiques, transparentes et apaisées en 2028.
Alors, c'est quoi l'urgence d'organiser ce dialogue? Parce que dans son message, Martin Fayulu lance un appel sans délai ou l'organisation sans délai d'un dialogue inclusif en RDC. Est-ce qu'il y a des menaces immédiates qui, selon M. Fayulu, justifient cette urgence et la mobilisation générale,
hein? Madame, même au moment où nous parlons ici, les combats continuent entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise, que vous qualifiez de M23 et autres. Au moment où je vous dis, où je vous parle, il y a des territoires congolais qui commencent à utiliser l'argent des pays voisins. Les francs burundais, les francs ougandais, demain, ne soyez pas étonné que les francs rwandais sera utilisé également ou est en train d'être utilisé dans nos territoires qui sont occupés. Si ce n'est pas un danger, alors il faut trouver les noms. Les morts, les enlèvements, une forme d'esclavagisme qui est en train de se passer dans ces territoires-là, madame, les jours où la guerre prendra fin, quand on amènera les documentaires, les images, c'est là où vous comprendrez les dangers que nous avons détectés. Parce que nous avons des militants de nos partis politiques, AD de Congo, SID et autres, qui ne peuvent plus aujourd'hui à Goma, Bukavu, et exercer les activités politiques comme auparavant. Les jeunes des mouvements citoyens se retrouvent en Ouganda, au Burundi ou au Kenya. Donc, les dangers sont là.
Mais dangers, il y a déjà des initiatives internationales qui sont en cours, notamment Washington et Doha. Est-ce que ces initiatives ne suffisent pas pour restaurer, pour le retour de la paix dans cette partie du pays?
J'aurais bien voulu que vous commenciez à me dire ces fameuses initiatives ont déjà donné quels résultats. Madame, les États naissent, les États existent, et les États mères aussi. Les États constituent également des corps qui peuvent aussi périr, qui peuvent aussi disparaître. Nous connaissons le cas du Soudan. Le Congo est en train de prendre la direction du Soudan, qui est aujourd'hui coupé en deux. Le Congo est en train de prendre la direction de la Somalie. Vous connaissez l'existence du Somaliland. Vous allez dire, oui, mais la reconnaissance internationale, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'État Somaliland existe.
Et Fayoulou évoque un virage vers la balkanisation.
Bien sûr, voilà pourquoi Fayoulou étant un leader nationaliste, c'est lui qui a été véritablement élu par le peuple en 2018. Nanga ne cesse de cracher les morceaux dans chacune des interventions. Fayoulou est investi de la mission d'empêcher la balkanisation. Voilà pourquoi il a fait...
Mais sur quel fait ou indistingible repose cette inquiétude de Fayoulou? C'est cas concret.
Si, est-ce que vous savez qu'il y a à peine 2 jours, les rebelles viennent de récupérer encore d'autres localités, malgré les prétendus cesser les faits? Vous savez, nous avions pris acte, nous, au sein de la coalition de la Mouka et de la DD Congo, de la signature de l'accord des principes de Washington. Et même quand ils ont amorcé l'heure pour parler à Doha, nous disions, bon, entendons voir. Nous pensions que les deux accords tels que signés allaient donner priorité à l'application de la résolution 2773 des Nations Unies. Une résolution qui est contraignante. Une résolution qui demandait à Kagame de prendre ses clics et ses craques et dégager notre territoire national. Malheureusement, à notre grande surprise, les Congolais constatent que, alors que la paix n'est pas encore certaine, alors que les Rwandais continuent à occuper nos terres, Félix Tshisekedi va signer un accord de coopération économique avec celui qui occupe nos terres. Vous parlez de quelle coopération économique? On ne peut pas signer un accord entre deux États alors qu'un des États a un pied à terre, a un genou à terre. Et c'est celui qui lui a mis un genou à terre qui vient signer un accord économique avec lui. Voilà pourquoi nous disons, on est en train d'être floué et il faut arrêter cette démarche-là. Le gouvernement congolais est en train de signer des accords dans un état de faiblesse. Normalement, si le Congo marchait sur ses deux pieds comme état qui se respecte, on aurait fait tout pour que la résolution des Nations Unies, une résolution votée par plus de 180 États qui demandent au Rwanda de se retirer, que le Rwanda d'abord se retire. S'il y a des coopérations économiques à signer avec le Rwanda, avec l'Angola ou avec l'Ouganda, il y a d'autres cadres. CPGL existe.
Merci.
CPGL existe. Alors pourquoi nous obliger à signer ces accords dans un moment où on tue nos frères, on tue nos femmes, on tue nos enfants? L'Ouganda, ils se sont partagés, il y a un jeu de rôle. Le Rwanda a sa zone d'influence au niveau du Nord Kivu et une partie du Sud Kivu. L'Ouganda est parti du côté de l'Ituri et une partie du Sud Kivu du côté de Beni et Butembo également. Nous ne pouvons pas co-gérer la patrie, notre patrie, la patrie pour laquelle Lumumba a donné sa vie, avec le Rwanda et l'Ouganda. Et en même temps, on signe officiellement des accords avec
Pengé. On va vous redonner la parole. Dieudonné Nkichi, vous êtes président du parti politique Congo Positif, parti membre de l'Union Sacrée, la Nation. Vous êtes initiateur du Front Anti-Dialogue National. Quelle lecture d'abord vous faites de cet appel de Martin Fayoulou qui appelle à l'organisation sans délai d'un dialogue national inclusif en RDC? On sait que vous êtes un anti-dialogue. Vous n'en voulez pas. Hein? Vous ne voulez pas de ce dialogue.
Madame Kelly, merci. Je salue tous les auditeurs qui nous suivent. Je salue mes frères qui sont ici, mon ami Christian et Prince. Nous avons, nous, salué la prise de position, la déclaration qui a été faite par le président Martin Fayoulou, l'honorable Martin Fayoulou. D'abord, lorsqu'il appelle à l'intégrité de notre territoire, lorsqu'il fait appel à la jeunesse de ce pays, pour qu'elle se mobilise et qu'elle défende les territoires nationaux, ainsi que le fait déjà, le font déjà les Wazalendo et beaucoup d'autres jeunes qui sont engagés dans les forces armées congolaises. Nous avons vraiment salué ça. Nous avons salué l'appel à l'unité. L'unité qui doit nous caractériser en ce moment où, comme on dit, le serpent est dans la maison. Et quand le serpent est dans la maison, la sagesse africaine demande quoi ? Demande qu'on taise toutes les divergences, qu'on taise les conflits, qu'on s'occupe du serpent, qu'on les sorte de la maison, et après, qu'on s'occupe maintenant de nos conflits, de nos problèmes. Nous avons salué cet appel à l'unité. Cependant, à un moment donné, nous nous sommes demandé, mais nous avons aussi salué, nous avons salué le fait que l'honorable Martin Fayoulou puisse dénoncer les accords qui se signent ailleurs, qui se signent partout au monde maintenant. Hier, c'était Lusaka, Gaborone, Luanda. Donc, c'est comme si le monde était simplement en train de nous trimballer. Et nous, du Front Anti-Dialogue, nous disons, nous n'avons pas besoin de tous ces accords. Parce que tous ces accords se font où ? Ça s'est fait dans un cadre qu'on appelle État. Nous sommes d'abord et avant tout un État. Un État a des prérogatives. Un État a des compétences. Un État a sa manière de fonctionner. Donc, en tant que tel, un État aujourd'hui est régi par des principes internationaux. Il y a la charte, la charte des Nations Unies, il y a la Déclaration universelle des Nations Unies. Tous ces instruments internationaux auxquels la République démocratique du Congo a adhéré sont censés offrir à notre État, au Congo, aux Congolais, tous les avantages de protection, de soutien en cas d'agression, comme c'est le cas aujourd'hui.
Et vous estimez donc que la RDC ne trouvera pas de solution dans tous ces processus de paix, que ce soit à Washington ou à Doha?
Ça n'a pas commencé aujourd'hui, madame. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tout ça, c'est des capitales qui changent, c'est des acteurs qui changent, mais les méthodes restent les mêmes. Les méthodes restent les mêmes et nous avons aussi salué que cela soit relevé par quelqu'un qui a de l'aura, quelqu'un qui est reconnu au niveau mondial, Martin Fayoulou. Nous avons reconnu ça. Nous avons salué cette prise de position. Mais les bémols viennent d'où ? Les bémols viennent lorsqu'il lance un appel à un dialogue inclusif national. C'est là où les bémols viennent. Parce que, en fait, nous avons l'impression que cette prise de position vient maintenant dire nous devons nous réunir parce qu'il faut des dialogues, tout ça. Là, nous avons, nous, adressé une lettre à l'honorable Martin Fayoulou pour lui poser deux petites questions simples. La première, c'est de savoir quelle est la garantie. Quelle est la garantie que lui a qu'il suffit qu'on se réunisse pour que les problèmes finissent. Alors que nous l'avons déjà fait. Nous avons eu à faire plus de 37. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement à 47 dialogues, toutes sortes confondues. Plus ou moins 47. Détenus. Où est la solution ? Les Congos et les Congolais ont été tournés en bourrique. Si bien que, à chaque fois on s'est réunis, les gens qui prennent les armes, qui tuent les Congolais comme des animaux. Vous savez, madame, aujourd'hui, même les animaux, on ne les tue plus comme on tue les Congolais. Aujourd'hui, dans ce monde. Les animaux sont mieux protégés aujourd'hui dans ce monde que les Congolais. Donc, voici les gens qui peuvent prendre les armes, qui tuent les Congolais et qui, demain, peuvent allègrement venir diriger les mêmes Congolais. Alors, la question que nous posons à l'honorable, en tout respect, vraiment avec tout le respect que nous lui devons, c'est de savoir quelle est la garantie qu'il a. Que, dès que nous nous sommes réunis autour de la table, le problème est fini. L'agression, les Rwandais s'arrêtent d'agresser la République démocratique du Congo. Il a parlé avec Kagame. Kagame lui a dit quoi ? Pour qu'il pense que, comme beaucoup d'autres acteurs politiques congolais,
Vous pensez qu'il suffit qu'on se mette autour d'une table, qu'on parle comme on n'a pas. San City, je ne pense même pas qu'il y aura encore un...
Je rappelle qu'il soutient le dialogue de la SANCO. La SANCO a parlé avec, avec Kagame, j'imagine, qu'on lui a fait rapport donc, de cet entretien entre la SANCO et, le président
français. Vous vous rendez compte, madame, vous vous rendez compte que le président Kagame peut mettre en place sa stratégie et la faire appliquer au Congo, simplement parce qu'il sait qu'il y aura des gens qui viendront parler du dialogue et qui... Et c'est son dictat, ça. Quand vous réfléchissez de très près, de très bien, vous vous rendrez compte que c'est ça le schéma, en fait. Et c'est ça que nous ne voulons plus pour notre pays. On peut bien aimer les dialogues. Nous, nous sommes des gens de dialogue. Mais nous pensons que ces dialogues-là, qui ne nous dit pas comment, après que nous nous soyons réunis, les velléités du Rwanda pour dominer notre pays, pour esclavagiser le peuple congolais, pour continuer à exploiter illégalement nos ressources, que ces velléités-là vont s'arrêter juste parce que nous nous sommes réunis dans un dialogue.
Et vous estimez
il
n'y
a pas
donc,
de garantie.
Vous estimez
quelle
que
est la garantie?
Les institutions actuelles sont suffisantes pour gérer cette crise?
Bon, permettez-moi de donner la deuxième question.
Et allez-y.
Oui, la deuxième question que nous posons, c'est celle de savoir, est-ce que le président Fayoulou Martin a la garantie que si nous tenons ces dialogues dans ce pays, ça sera le dernier? Est-ce qu'il peut nous garantir? Il peut vraiment prendre une déclaration solennelle devant les Congolais. Nous rassurer, nous tous, parce que nous on a peur qu'on répète la même chose. Nous avons peur qu'il y ait encore des mixages, qu'il y ait encore des brassages, qu'il y ait encore des gens qui prennent des... Parce que quand vous lisez la Constitution ici, on a dit que personne ne pouvait encore prendre les armes contre la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on vous parle de 3 ans de Mugana-Gana, de ceci, de cela. Donc, quelle est donc la garantie qu'il suffirait que les gens se réunissent pour que tous ces problèmes-là disparaissent comme de la glace au soleil? Voilà les questions essentielles que nous avons posées par écrit au président Fayoulou. Nous espérons qu'il nous répondra. Nous espérons, et surtout nous espérons, pas même à nous, parce qu'il s'est adressé aux Congolais, nous sommes des Congolais, nous espérons qu'il répondra à ces deux questions au peuple congolais. Parce que sinon, ça sera quoi? On fera la même chose, on va faire la même chose, et on va avoir les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça sera les cycles. Ça sera la paix de 5 ans comme toujours, la paix de 10 ans maximum. Ça sera les gens qui tuent, les gens qui viennent commencer à rouler ici carrosse, qui viendront diriger les Congolais avec le sang. Le président Charles Sarkozy l'a dit, le président Emmanuel Macron l'a dit. Les Congolais sont des gens qu'on peut tuer et qu'on peut diriger.
Alors, ça me pose à vous poser la question de savoir, est-ce que vous estimez que les institutions actuelles sont en mesure de gérer cette crise?
Si je me réfère à ce que les Congolais eux-mêmes ont dit dans leur constitution. Ils ont installé, les Congolais ont mis en place une constitution qu'ils ont votée au référendum. Madame, je signale ici que nous ne sommes pas non plus partisans de cette constitution. Mais parce que c'est celle-là qui nous régit pour le moment, nous en parlons de cette manière. Donc, les Congolais ont mis en place une constitution. Les Congolais ont voté les autorités qui sont là. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, mais au moins ce sont celles-là qui ont le mandat justement de mettre fin à toutes ces situations. Et nous, comme le président Fayoulou, lorsque nous prenons position, c'est justement pour pousser les autorités à faire ce qu'elles sont appelées à faire. Ce qu'elles sont appelées à faire pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est de mobiliser les peuples congolais, ainsi que M. Laurent Désiré Kabila l'a fait en 98.
Mais ça fait 3 ans que Bounagana, par exemple, est entre les mains des rebelles. On l'a mobilisé,
on a mis madame.
Les moyens, c'est mais on n'arrive pas à récupérer.
C'est le déni de la guerre qui se vit partout dans ce pays. Ces pays ici, on ne vit pas comme un pays où on est agressé. On n'a pris aucune décision qui soit celle de mobilisation du peuple. Jusqu'ici, on s'est fié au front diplomatique, au front médiatique, au front, tous les fronts là dont on parle, mais personne ne vous parle du front populaire. Personne. Et vous avez vu lorsque les Rwandais sont rentrés dans cette ville de Kinshasa avec des armes à la main, le peuple de Tchang ou le peuple de Kinshasa que je salue les avait désarmés et Mouzé a construit les marchés de la liberté. Vous êtes en train de voir le patriotisme de jeunes Wazalendo à l'est de notre pays. Donc, s'il y a un programme de mobilisation vraie, réelle, et les Congolais le demandent, parce que nous venons de récolter des signatures. Donc, les Congolais demandent à être mobilisés, à être organisés pour mettre fin. Et je vous dis, ça ne fera même pas 10 jours.
Merci Dieudonné Nkishi. Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Comment vous analysez cet appel, ce nouvel appel de Martin Fayulu?
Le discours du président Martin Fayulu, de mon point de vue, présentait, je dirais, un double spectre. On a, en les lisant, vous avez le sentiment qu'il s'adressait à deux destinataires, un destinataire international, là où il évoque la concadre, le cadre d'intégration économique, le fait qu'il y ait des pressions pour que le Congo puisse signer, le rejet des pressions face notamment au gouvernement pour que des accords soient signés au nom de la sécurité, et en même temps, lorsqu'il évoque également la résolution 2073. Et puis il y a une deuxième partie du discours, qui davantage tourne sous la dynamique interne, où il commence à parler, j'appelle le président, où il revient sur la problématique du dialogue. Alors, et vous sentez donc qu'il y a ces deux pieds-là, à savoir la dynamique internationale, où là il rejoint la position du gouvernement, à savoir de plus en plus on revient sur la résolution 2773, alors que la déclaration de principe et droit a quelque peu a réduit les acquis que nous avions pu obtenir à la résolution 2773. Et après, dans sa dynamique interne, là on sent... au-delà de son discours équilibriste d'habitude, on sent une forme de mise en demeure faite au gouvernement, à savoir la menace de mobiliser la rue pour avoir, sur base d'une pression, un dialogue interne qui ne semble pas intéresser le gouvernement. Vous avez un gouvernement qui, à ce stade, tente des négociations internationales, le processus de Doha tend vers sa fin avec ou sans accord, on parle de protocoles d'accord qui pourront être pris en charge par un nouveau médiateur, on a le processus de Washington qui également tend vers sa fin, parce que, en principe, en fin novembre, on devait avoir à Washington le président Kagame et le président Félix. Et donc, vous avez une dynamique internationale qui, même si les résultats sur le terrain ne sont pas assez concluants, mais qui semble aller vers sa fin, alors qu'on a une dynamique interne qui ne bouge pas. Et donc, c'est vraiment une forme de pression pour que la dynamique interne puisse également avancer. Et ce n'est pas anodin que cette menace de mobilisation intervienne après que Jean-Marc Kabound ait également appelé, je crois, au 15 prochain, à des mouvements de rue pour appeler au dialogue. Donc je crois que c'est une opposition qui prend conscience que le gouvernement ne bougerait pas sans des pressions internes et qu'il faut penser à changer d'approche stratégique pour pousser Kinshasa à aller vers la table du dialogue.
Mais le contexte politique actuel permet-il l'organisation d'un dialogue véritablement inclusif et non manipulé, Christian Moleka?
Déjà, le contexte actuel ne permet pas d'avoir un dialogue parce que le gouvernement, le Kinshasa, a multiplié à la fois de manœuvres pour exclure certains acteurs. On peut penser à Kabila, on peut penser à ceux qui sont en dehors du pays. Il y a une posture maximaliste actuelle qui ne permet pas d'avoir tous les acteurs venus autour d'une table. Il y a le processus, le fameux pacte social des évêques qui à un moment donné semblait rassurer le pouvoir avec des travaux, on a vu des avancées avec des travaux avec la présidence, mais qui aujourd'hui est également mis au frigo. Donc la grande difficulté, c'est la posture maximaliste du gouvernement aujourd'hui, qui peut-être évoluer demain si l'opposition, avec une pression, parce qu'il semble se projeter vers une pression de rue, amène le gouvernement à revenir sur sa position maximaliste actuelle.
Alors, l'appel ou l'inquiétude de Martin Fayulu concernant la balkanisation, est-ce que cela est fondé ou c'est juste une façon pour lui, un discours politique pour mobiliser l'opinion contre tous ces processus de paix à l'extérieur du pays?
Il y a une forme, je dirais, d'administration parallèle qui se met en œuvre à l'est du pays. On peut parler d'un mouvement qui a recruté des magistrats, qui a recruté des policiers, qui a recruté des militaires, qui est en train de faire une identification foncière, et qui a parlé récemment d'avoir un nouveau visa et document d'immigration pour la partie de l'Est. Ensuite, si vous suivez le draft, le premier draft lancé à Doha, et qui n'est pas allé très loin, qui présentait à la fois une déclaration de sinistre à la région, la mise en place d'une armée composée à 50% avec les 23, des possibilités d'une présence militaire pendant 5 ans. Ce sont des éléments qui ne confortent pas une restauration rapide de l'autorité de l'État. Et même si vous suivez les dernières déclarations signées à Doha, vous sentez qu'il y a une discordance sous le timing dans la restauration de l'autorité de l'État qui se pense comme une mesure progressive du côté 1-23 et immédiate du côté de Kinshasa. Et donc cette absence également de vue commune sur cette question laisse à penser que nous sommes en train d'installer une forme de pourriture à une situation qui peut installer dans un État fantoche. Parce que pendant que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, eh bien, il y a un marché économique qui s'ouvre aux pays voisins, il y a une intégration économique non voulue qui peut se déployer, et il y a également un travail de mise en place d'administration territoriale qui se met à petit coup, mais qui, au bout de 30 ans, change radicalement le rapport au pouvoir central à Kinshasa. Donc c'est un État qu'il ne faut pas prendre avec beaucoup de légèreté. Quand tu as parlé de balkanisation, c'est vrai que l'M23 a pris des engagements sur le respect de la souveraineté, sur le respect de l'intégrité territoriale, ces engagements sur papier qu'il faudra voir sur le terrain, mais il y a aujourd'hui des risques réels et existentiels de balkanisation.
Alors, vous allez garder la parole, on va écouter ces auditeurs qui sont en ligne, qui veulent donner leurs avis sur le sujet de ce soir, direction Kinshasa. Cette module à réalisation, on va prendre cet auditeur de Kinshasa qui est en ligne.
René Saïa Mengebo depuis Kinshasa. L'appel de Martin Fayoulou à un dialogue national inclusif traduit une inquiétude réelle sur l'avenir de la RDC dans un contexte de tensions sécuritaires, d'accords controversés et de divisions politiques persistantes. En dénonçant l'accord RDC-Rwanda comme une menace à l'intégrité territoriale, il exprime une peur largement partagée dans l'opinion, celle d'une perte de souveraineté. Son appel à la jeunesse vise à rêver un succès patriotique face à ce qu'il considère comme une dérive. Toutefois, pour que ce dialogue soit constructif, il faudrait qu'il ne serve pas uniquement les tribunes politiques, mais qu'il réunisse réellement toutes les sensibilités pour redéfinir un projet commun de stabilité et d'unité. Ce genre d'appel montre que malgré les institutions en place, les sentiments de crise de confiance entre les peuples, ses dirigeants et ses partenaires restent vifs.
Christophe
Molita, ma réaction. Je dirais à René Saïa qu'il y a une partie des éléments que je partage quand même. Je reste dans la logique d'un jeune acteur où il faut exercer une pression pour dynamique interne dans un contexte où on a un processus international qui tend de plus en plus vers sa fin et que Kinshasa traînant le pas, le Martin Fayoulou et sa coalition voudraient faire de la surenchère, faire de la pression pour amener à la table de l'homme Kinshasa. Oui, après, les inquiétudes sont fondées, c'est vrai. Celui de la crise de confiance, lorsqu'il parle de ciseaux patriotiques, aujourd'hui il y a une forme, je ne dirais pas de rejet, mais il y a une forme de froideur vis-à-vis de la classe politique de manière générale. Et si la population semble ne pas concernée par une mobilisation patriotique, ce n'est pas par force de patriotisme, c'est peut-être par force d'identification à un discours et à des acteurs. Et donc il y a un vrai défi aujourd'hui à refonder cette confiance et à casser cette crise de confiance qui peut nous exposer à de plus grands dangers.
On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis la ville d'Ebounia dans la province de l'Ituri.
Ben et tout quoi là à Bounia dans la province de l'Ituri. Les dialogues tant voulus par les classes politiques des opposants, dont aussi Martin Fayoulou fait partie, commence à perdre ses substances et il nous souviendra que Martin Fayoulou avait précédemment rencontré personnellement le président Félix Tshisekedi pour une demande directe de dialogue. Mais la suite, nous connaissons tous. À mon avis, le président Félix Tshisekedi joue au chrono et à ce stade, pour une bonne stratégie politique, il faut le laisser résoudre les problèmes actuels, celles avec le FCM23, parce que c'est avec eux qu'il a la volonté de dialoguer et non avec les autres opposants qui, dès le départ de son mandat, considérés comme des opposants faibles, dont fait partie aussi Martin Fayoulou.
Prince Pengue.
Bon, évidemment que on ne peut pas. Le Congo nous appartient. Le Congo appartient à tout le monde. Et quand un problème survient, tous les enfants du Congo doivent contribuer pour apporter la solution. Je le dis et je le répète, au sein de l'ADD Congo, au sein de la MUCA, nous disons, nous sommes tous dans un même bateau. Nous ne pouvons pas dire que le bateau est en train de prendre l'eau, c'est le problème de M. Tshisekedi. C'est le problème de Nanga. N'oublions pas que c'est chaos qui guette le Congo. C'est désordre que nous avons aujourd'hui. L'origine, si on peut parler en termes de déterminisme historique, c'est la fabrication des résultats par Nanga en 2018. Si Nanga avait laissé les vrais gagnants des élections, Martin Fayulu, on n'en serait pas là. C'est Nanga, Kabila qui ont foutu, excusez-moi l'expression, la merde. Alors, donc on ne peut pas dire que, bon, comme disait Albert Einstein, quand les gars se réunissent et créent les problèmes, on dit, bon, laissez-les. Vous croyez vraiment que Nanga va nous amener la solution alors que lui-même avoue que c'est lui qui a créé les problèmes? Non. Donc, ici, Fayulu fait appel à la conscience, à la mobilisation. Peut-être parce que jusque-là, il est le seul qui a vu les dangers.
Mais comment vous entendez organiser et encadrer cette mobilisation générale?
Mais personne dans ce pays ne s'est mobilisé plus que Martin Fayulu. Etienne Tshisekedi Amoumbe est parti. Le seul qui connaît la rue, c'est Fayulu. Et nous allons mobiliser, nous disons aux jeunes de Kinshasa, de l'Équateur, du Kassai, du Katanga, du Kivu, et Congo central, Bandundu, partout, province orientale, Maniema, Sankuru, soyez prêts. Et Ndeko Kish parlait de la mobilisation populaire. Et cette mobilisation est là, elle a eu lieu et elle est continue. C'est grâce notamment à la mobilisation de la diaspora. C'est grâce notamment aux marches que l'AMUKA a organisées ici pour soutenir l'armée, soutenir et nos compatriotes du Kivu, que jusque-là, Kagame n'a pas encore franchi Goma. Sinon, Kagame serait déjà peut-être à Kisangani. Donc, ce n'est pas le nombre de dialogues qui devrait inquiéter M. Nkishi. C'est plutôt la succession des régimes et des gouvernements incapables de nous protéger qui devrait faire l'objet d'inquiétude. Monsieur Dieudonné Nkishi est de l'Union sacrée. Il faut le répéter, il est de l'Union sacrée.
On l'a dit.
Si nous sommes dans cette situation ici, c'est à cause de l'incapacité de son Union sacrée à protéger les Congolais. Quel est le rôle d'un État? Quel est le rôle d'un gouvernement? Il y a des braquages ici à Kinshasa chaque jour. Il va nous dire que non, laissons au gouvernement, le gouvernement va résoudre. Après 7 ans. Quelle est la politique nationale en matière de la défense nationale? Il est de l'Union sacrée qui nous le dise. Il n'y a pas un document officiel dans ce pays en matière de la défense nationale. Les camps militaires que nous avons ici sont des camps militaires des Belges. Alors qu'en réalité, sachant qu'il y a un danger permanent entre nous le Rwanda, entre nous l'Ouganda, on aurait peut-être 7 camps militaires qu'on aurait plantés le long de ces frontières-là. Il n'en existe aucun. Donc, c'est la faute du régime de M. Kishi qui nous a amené à ce niveau-ci. Donc, je suis en disant, donc, le dialogue fait partie de la vie d'un État. D'ailleurs, je suis aussi politologue, les États sont les fruits des dialogues. Et aucun État ne peut vivre sans dialogue. Ne mettons pas notre peuple. Le dialogue, tant que le Congo vivra, tant que le Rwanda n'aura pas couper une partie du Congo, les dialogues continueront. Après nous, les dialogues vont continuer. Ici, c'est que, pour chuter, nous avons rejeté au sein de la MUC du Congo l'accord cadre de Doha, parce que quand madame vous lisez cet accord, vous avez l'impression que c'est un pacte de non-agression signé entre deux États qui traitent d'égal à égal. C'est comme si le Congo démocratique a érigé FM23 en statut d'un État avec lequel il traite d'égal à égal. Et c'est un danger.
Merci.
Et il faut alerter que c'est un danger. Merci. Est-ce que vous savez que les frontières sont déjà ouvertes entre Goma, Bukavu, l'Ouganda, le Rwanda et les autres? On a déjà ouvert les frontières avec ces pays-là. Nous sommes en train de perdre notre pays.
Merci, Prince Epengue. Dieudonné Nkishi, on va écouter cet auditeur qui nous appelle de la province du Lualaba, oui.
Jeannot Louembo Kitenge depuis la province du Lualaba. Le dialogue à l'interne entre Congolais que demande la majorité des Congolais, entre autres les camps politiques des opposants armés et ceux non armés, même les différentes confessions religieuses, est la seule et unique issue de sortie des crises que connaît notre pays. Mais malheureusement, nous constatons avec regret que le régime de Kinshasa devient à la fois responsable et pleurnichard de l'état dans lequel se trouve notre pays, car refusons catégoriquement ce dialogue qu'attendent tous les Congolais, tout ça pour se rassurer de finir son deuxième et dernier mandat jusqu'en 2028, laissant ainsi les populations dans un état de désespoir total. Si le régime de Kinshasa refuse tout dialogue à l'interne, c'est parce qu'ils savent qu'une fois l'organisé, il sera question de la mise sur table de tous les accords non respectés signés en 2018. Ils ont simplement la fausse.
Vous avez la frousse de Dolin Kishi.
Bon, vous savez, Madame Kelly, lorsqu'on parle de dialogue, beaucoup sont sur la, l'approche politique de la question. Mais nous, nous voyons l'approche, évidemment, politique, mais nous voyons l'État et l'État congolais. Nous disons que le Congo, c'est un État, c'est pas un club d'amis. Nous disons que le temps de la capitulation est terminé. Parce que aujourd'hui, notre pays ici, la République démocratique du Congo, est agressé. Il y a la présence de militaires étrangers non invités qui opèrent sur notre territoire national. Et face à une situation comme celle-ci, en tant qu'État, nous devons nous assumer. En tant qu'État, ce que nous nous disons, et c'est, je l'ai dit dans cette émission, ce que le président Martin Fayoulou devrait faire et doit faire, ce que nous, tout ce qu'on décrit là, manque de stratégie, manque de ceci, nous devons pousser les gens qui ont été élus à donner des solutions. Et c'est ça.
Mais si c'est aussi ça, ne donne pas des solutions.
Mais
vous avez donné l'exemple du serpent dans la maison. Est-ce que ce n'est pas le moment pour que les habitants de cette maison-là se mettent ensemble, trouvent des stratégies pour sortir ce serpent de la maison?
Nous le disons, mais le problème c'est que les gens, pour entrer et faire sortir les serpents, ils posent des conditions. Les gens posent des conditions.
Lesquelles, par exemple?
On vous dit qu'on doit d'abord tenir un dialogue. Alors que aujourd'hui, la question... Le besoin, ce n'est pas de tenir un dialogue, le besoin, c'est de nous mobiliser et arrêter l'agression. Si tous nous sommes d'accord, si tous nous sommes d'accord que le pays est agressé, en tout cas, l'activité principale qui devrait nous intéresser, qui devrait nous préoccuper en ce moment, c'est de faire en sorte que cette agression s'arrête. Elle dure 30 ans, aujourd'hui 31 ans. Donc, nous pensons que situer les problèmes à des régimes, si c'était un problème de régime politique, madame, si c'était le problème d'un régime, vous savez qu'on nous avait dit qu'on venait chasser le président Mobutu parce que c'était un dictateur. Mobutu parti, ses problèmes est resté avec le Rwanda. Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé. Lui-même qui est venu avec eux, il a dit quoi? C'est un conglomérat et ceci, cela. Vous connaissez, nous connaissons tous le sort qui a été réservé à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il n'est plus de ce monde. Mais les problèmes continuent. Son fils Joseph Kabila arrivé au pouvoir. Vous avez vu également ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on veut nous faire dire, on veut nous faire croire que les problèmes, c'est Tshisekedi. Non, nous pensons que si les problèmes c'était Tshisekedi, les problèmes n'auraient pas commencé déjà du temps de Mobutu. Donc, pour dire que aujourd'hui, nous Congolais, nous devons avoir la lucidité de comprendre que les problèmes, c'est les Rwandais qui mènent ces activités meurtrières sur notre territoire et sur notre peuple.
Alors, Christian Moleka, si aucune solution politique n'est trouvée rapidement, ni dialogue, ni consensus, vers quel scénario politique et sécuritaire, je voulais dire, la RDC risque-t-elle d'évoluer à court et à moyen terme?
Bon, solution, du niveau interne ou au niveau externe?
Que ce soit externe ou interne.
Ben on a je peux dire trois scénarios. Le premier scénario, si on n'a pas un accord de paix avec l'un 23, chaque partie s'étant militairement préparée, on peut aller vers un retour de combat. Et peut-être que le rapport de force déterminera l'issue du prochain processus diplomatique. En interne, nous sommes pratiquement à 2 ans des élections. Et donc nous serons d'un moment à l'autre butés par les délais constitutionnels pour avoir un processus politique en interne. Sachant qu'il faut déjà un budget, on a eu 1,3 milliard en 2023, sachant qu'il faut mettre en place les réformes au niveau du Parlement, que ce soit au niveau des lois, la loi électorale, ainsi de suite, et que les délais commencent de plus en plus à manquer. Et donc, à défaut d'avoir un processus politique sous la fin du mandat présidentiel, on peut avoir à nouveau un front politique interne qui va se chauffer avec des marches de l'opposition, encore faut-il que l'opposition soit capable de mobiliser en interne. Et peut-être un scénario optimal, c'est que, à défaut d'avoir un processus interne, que Washington, qui est intéressé par des raisons économiques, fasse pression sur le pays comme le Rwanda pour un retrait plus ou moins symbolique de ses troupes dans l'Est. Et donc on aura une forme de ni paix ni guerre, mais qui pourra rassurer tout le monde. Certains feront l'économique, d'autres auront le sentiment d'avoir diplomatique répondu, mais on n'aura pas fait avancer et on aura une forme de sclérose politique.
Prince Pengé, si le dialogue n'est pas organisé, quelle est l'alternative politique de la Mouka pour défendre le pays et empêcher la balkanisation redoutée?
Il n'y a pas de si. Le dialogue est une obligation. C'est même une nécessité vitale. Si notre compatriote Nkisi et son Union Sacrée s'entêtent, on va mobiliser le peuple pour leur donner un coup de patte dans les derrière et on les dégage tous. L'Union Sacrée a intérêt à comprendre que si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de leur incapacité. J'aurais même voulu que M. Nkisi soit honnête pour dire que non, un État, son rôle, c'est de protéger. Un État, son rôle, c'est de sécuriser ses frontières. Et l'État a failli. Le régime, c'est ce qu'il a failli. Et donc, aujourd'hui, les Congolais veulent se réunir pour résoudre les problèmes que l'Union Sacrée est capable de résoudre seule. Vous devez vous inspirer des gardiens de Léopard. Comment il s'appelle? Lionel. Le gardien titulaire de Léopard. Lionel Fassi. Il s'est rendu compte que dans l'exercice de pénalty, il n'est pas très fort. Et il voit son entraîneur pour lui dire, faites entrer Fayoulou. L'Union Sacrée est capable de protéger les Congolais. Elle devrait dire...
Et vous, de la Mouka, vous allez protéger les Congolais?
Il devrait dire, remettez le pouvoir à Fayoulou, il va faire le boulot. Malheureusement.
Votre conclusion, qui je dirais de l'Inkishi?
Vous voyez, la lecture partisane de la question essentielle sur notre État, moi, mes cœurs. Parce que cette guerre n'a pas commencé avec l'Union Sacrée.
En tout cas, vous l'avez aggravée.
La question n'a pas commencé avec l'Union Sacrée. Et donc, réduire ça, c'est très grave. C'est extrêmement grave qu'on vienne dire des choses comme ça sur ces plateaux, alors que nous avons un problème sérieux d'agression. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir des solutions avec des gens qui réfléchissent comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que, je vous dis... On nous a dit on venait chasser les dictateurs Mobutu. Mobutu parti, la question continue. On nous a dit Mouzé est venu. Mouzé, on l'a tué et la question continue. Kabila est parti, la question continue. Aujourd'hui, Tshisekedi est là. Demain, on mettra un autre, la question ici.
Alors
va continuer.
Pour vous, pas de dialogue, même si on organisait le dialogue, il n'y aura pas de solution.
Nous serons en train de danser au tam-tam du Rwanda en faisant les dialogues.
Merci, Dieudonné Nkisi, Dialogue en Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Enoch Katumbi, Jean-Claude Siala, Donat Fouanani, Pierre Diassinois, restez branchés sur la fréquence de la paix.